RCF. Architecture et cadre de vie sur RCF. Une émission en partenariat avec le CAIE de la Nièvre.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy Hichet qui a créé une entreprise de soins aux arbres qui s'appelle Arbre en Tête et qui est maintenant aussi à la tête d'une entreprise d'expertise sur les arbres. Ces deux entreprises sont situées à Nevers, rue de la Raie, et nous profitons de cette rencontre pour avoir des éléments de compréhension sur la vie des arbres et la manière d'en prendre soin. Mais dans un premier temps, Geoffroy, j'aimerais que tu nous parles de ton itinéraire professionnel, qu'on puisse comprendre ce qui t'a amené à créer ces deux entités, ces deux entreprises, et nous dire comment tu fonctionnes à l'heure actuelle.
Bonjour, donc Geoffroy Hichet, gérant de la société Arbre en Tête et Arbor Expert. Je suis tout d'abord Nivernais, j'ai vécu toute ma jeunesse à Decize. Et puis j'ai commencé mes études par un CAP pépinière au lycée horticole de Plagny. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BEP pépinière en 2 ans. Un bac pro aménagement paysager en 2 ans également au lycée horticole de Plagny. J'ai commencé à faire un peu d'escalade, donc c'est où j'ai commencé à toucher un peu au mousqueton, aux cordes et à prendre un peu de hauteur. Donc ça a été un premier élément déclencheur à mon avis. Ensuite, je suis parti en BTS aménagement paysager parce que je voulais faire de la conception paysagère sur Sens. Et puis je continuais toujours l'escalade. Et après, je me suis dit pourquoi pas associer ma passion à mon métier. Et je savais que je pouvais déraper sur une formation d'élagueur, donc arboriste grimpeur. Chose que j'ai fait également sur Paris, au Tremblay-sur-Mauldre, sur 1 an. De là, mon patron sur Paris, qui m'avait pris en apprentissage, m'avait proposé une place en tant que chef d'équipe paysage et élagage. Donc, que j'ai accepté, j'ai bossé pendant 2 mois. Après, j'ai dû partir à l'armée. Donc, à l'armée, je suis parti en Allemagne. J'étais le dernier contingent à partir en Allemagne, le dernier contingent français. J'ai fini là-bas sergent appelé, parce que j'aimais bien avoir des responsabilités. J'aimais bien aussi m'engager dès que je fais quelque chose. C'est vrai que dès mon plus jeune âge, je m'engage quand même à fond. Et puis là, j'ai un copain d'enfance qui était avec moi au scout et puis qui était avec moi en BEP, qui m'a dit, écoute Geoffroy, voilà, il y a Monsieur Savouret à Coulonges-et-Nevers qui revend sa boîte. Ça fait déjà, je crois que ça faisait 3 ans qu'il était là-bas, Romain. Et donc Romain Lafaille me demande si j'étais d'accord pour reprendre avec lui l'entreprise. Donc j'avais été que 2 mois salarié dans une entreprise, hein, j'avais fait que des formations. Et puis sur le coup de tête, j'ai dit oui, banco, ça m'a permis de revenir sur la Nièvre. Donc c'était quand même assez intéressant pour moi parce que la vie parisienne, c'est bien, on apprend bien à progresser. Parce que c'est vrai que quand on oublie quelque chose de matin en dépôt, on ne retourne pas le chercher, on doit se débrouiller sans. Donc en général, on oublie une fois ou deux fois, mais après on apprend quand même à se débrouiller. Puis surtout à ne pas oublier le matériel. Donc c'est vrai qu'au niveau organisation, c'est une très belle école de la vie. Au niveau commercialisation également, parce que les gens adoraient parler avec... avec les entreprises, adoraient parler avec les salariés. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des gens célèbres, justement, en formation. J'ai eu la chance de parler avec Brigitte Bardot pendant une journée entière, chez elle, à son domicile, où on a parlé arbres. Et donc moi, j'étais vraiment tout jeune dans les débuts. J'avais quoi ? J'avais 19, peut-être 20 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, ça a été une très belle expérience pour moi. Et ensuite... du coup, on s'est installé avec Romain le 1er avril 2001. Donc c'était un petit challenge. Et ça s'est très bien passé tout de suite. On a racheté donc l'entreprise de Bernard Savouret. Et Bernard Savouret était installé depuis quand même pas loin d'une vingtaine d'années, il me semble, sur Coulonges-et-Nevers. Et puis, je m'occupais à l'époque de la création et de l'entretien. Romain s'occupait également de la création de l'entretien de jardin. Et puis, quand il y avait un peu d'élagage, ça représentait une journée dans le mois au début. Donc, j'étais tout content. J'étais chouette, cette semaine, je grimpe. Donc, c'était assez sympa. Et puis, au fil du temps, les journées se sont développées. Donc, ça commençait à faire 2-3 jours par mois. Après, une semaine complète dans le mois, c'était l'extase. J'étais super heureux. Et puis, au final, après, ça m'a occupé toute l'année. J'ai même commencé à prendre un apprenti qui, aujourd'hui, est à son compte aussi. Pour m'épauler parce que j'y arrivais pas à suivre. Il fallait faire les chantiers la journée, comme tout chef d'entreprise au début, les chantiers la journée, les rendez-vous le soir et le bureau en troisième partie de journée. Donc on était quand même deux, donc c'est vrai qu'on était associés à 50-50, c'était assez intéressant parce que on s'épaulait. Et puis ça a été une très belle école de la vie aussi. Je pense que si Romain m'avait pas demandé un jour de m'installer à mon compte sur Coulanges, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, je serais peut-être toujours salarié sur Paris ou avec une entreprise sur Paris, je sais pas. Mais voilà, là-dessus, je tiens quand même à le remercier parce qu'il m'a mis un gros coup de pouce dans la vie. Donc c'était vraiment intéressant, on s'est bien entendu. Et puis à un moment, au bout de 7 ans, c'est vrai que bah, je me souviens cette journée, ce soir-là, quand j'ai avoué que j'étais intéressé pour remonter une autre entreprise, délagage, et de quitter l'association. Bon, il était désolé, il était content pour moi, ça se voyait, mais il était quand même désolé pour l'association. C'est vrai que ça marchait très bien, mais j'avais besoin de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire que j'ai besoin de challenge tout le long de ma vie, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de me mettre à fond dans quelque chose. Après, rester longtemps sur un projet, je me rends compte qu'en fait, c'est pas moi. Ça me correspond pas. Donc j'ai créé l'entreprise Arbentête. C'était novembre 2007. De là, j'ai racheté tout mon matériel, ma clientèle à Romain. Donc la clientèle que j'avais montée avec, parce que l'entreprise de Bernard Savoy ne faisait pas du tout des lagages, quoi. C'était vraiment un secteur nouveau. J'avais un concurrent, Dominique Gouesque. C'était mon mentor parce que tout le monde m'en parlait. On me disait, mais c'est une armoire à glace, tu verras, il fait 2 mètres, 1,50 m de large, c'est un monstre de la vie. Je dis, merde, le jour où il va me voir, ça va être compliqué. Et en fait, il s'est arrêté sur un de mes chantiers, au tout début. Il s'est arrêté sur un de mes chantiers pour se présenter. Alors là, j'étais tout frêle, je tremblais, j'avais les mains moites. Enfin, c'était les débuts. Et il m'a félicité. Il m'a félicité du travail que je faisais. Il avait entendu parler de moi au niveau du respect de l'arbre. Et donc, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce qu'au début, c'est vrai qu'on fait des devis sur des travaux de taille. Les gens nous demandent de la taille radicale et puis on refuse, on explique qu'on ne fait pas du tout ce type de taille, qu'on préconise plus une taille douce. Et puis on repasse 2 mois après derrière et puis on voit l'arbre qui est transformé en porte-manteau ou en coton-tige. Donc forcément, c'est un peu déprimant. Et justement, je me souviens de cette phrase que m'avait dit Dominique, résiste et tu verras, un jour ça paiera. Les gens te rappelleront. Et c'est vrai, ça s'est confirmé quelques années après. Les gens me rappelaient, ils avaient fait faire une mauvaise taille et ils me demandaient après de revenir pour essayer de réparer un peu les dégâts. Alors, réparer, c'est un grand mot. On ne peut pas mettre des clous, des vis et puis raccrocher des branches, c'est pas possible. Il faut attendre que ça repousse, il faut attendre que ça cicatrise. Donc voilà. L'entreprise donc Arbentête, c'est très très bien développé. Et aujourd'hui, on est 7 dans l'entreprise. Et puis il y a de ça, 3-4 ans, un nouveau projet me trottait dans la tête. Je me disais, tiens, c'est bien, mais il faut que je pense quand même à ma fin de carrière. Qu'est-ce que je peux faire dans le monde arboricole pour aider encore cette filière? Donc je m'étais déjà inscrit dans des associations comme Sequoia, que tu connais, comme l'UNEP, comme la SFA. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien quand même faire un peu de diagnostic. Donc, j'ai passé quelques formations, enfin, le caducée de l'arbre, qui est en 9 modules sur Châteauneuf-du-Rhône. Là, aujourd'hui, je suis en train de m'inscrire à une deuxième formation, l'atelier de l'arbre, avec William Moore, donc, qui est plus côté de Bordeaux. Et voilà, j'ai monté cette entreprise, Arbor Expert, qui est basée dans la Creuse, dans ma résidence secondaire, mais qui est pilotée de Nevers. En fait, je pilote toutes les entreprises d'ici. Et là, je m'occupe de faire du diagnostic arboricole pour les particuliers, les collectivités, les constructeurs immobiliers. Je suis aussi expert arboricole au niveau de la Cour d'appel de Bourges, donc je suis expert de justice. Mais là, c'est plus le juge qui me mandate pour essayer de dépatouiller des problèmes chez des particuliers ou des collectivités. Et au niveau de ma clientèle d'Arbor Expert, c'est principalement quand même des constructeurs immobiliers sur Paris. Il faut savoir que les constructeurs, quand ils achètent des terrains, si par exemple il y a 30 arbres, ils me font faire un rapport, un audit, ils sont obligés, si jamais je mets qu'il y a 20 arbres à conserver, de livrer leur permis de construire, enfin de livrer leur bâtiment construit avec justement cette quantité d'arbres respectés. Donc c'est vrai qu'on a un gros carnet clientèle sur la région sud parisienne. Mais je fais toute la France. J'étais du côté de Bordeaux, j'étais dans le nord de la France, j'ai été à Nice, j'ai été. Enfin voilà, c'est une très belle expérience parce qu'en fait, on voit des arbres différents. D'imicocouliers, qu'on ne connaît pas du tout dans notre région. La première fois que je suis arrivé en expertise dans l'imicocoulier, j'ai dû faire quand même une recherche au préalable avant pour m'en servir. Je ne connaissais pas du tout cet arbre-là. Je n'ai jamais côtoyé, moi, ici ou sur Paris, je n'ai jamais côtoyé.
Alors, on pourrait de toute façon commencer à le planter ici avec les. les changements climatiques.
Alors, je ne suis pas trop fan de ce type de plantation. Mmh. Je préfère qu'on reste, encore ce matin, je préconisais des plantations une cliente. Mmh. Je préfère qu'on reste sur des essences qui sont de chez nous, qui sont adaptées à notre climat. Mmh. On a beau avoir un réchauffement climatique, on ne va pas tout de suite planter du palmier, on ne va pas planter des oliviers. Voilà, il faut quand même rester dans nos essences, planter petit, surtout ça c'est très important, planter très petit, de manière à ce que le végétal ait le temps de s'adapter au vent dominant, qu'il ait le temps de s'adapter à l'ensoleillement, à son exposition. Mmh. Et au stress urbain aussi qui est autour de lui, les vibrations de la route, la pollution, l'impact humain sur le végétal est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais elle est énorme. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire cette entreprise, à créer cette entreprise d'expertise. J'ai encore d'autres projets, tu me connais. J'ai d'autres toujours sur l'arbre, toujours au niveau du travail de l'arbre. J'aime bien faire le tour complet du végétal, c'est-à-dire répondre de A à Z à la demande du client. Donc c'est vrai qu'avec Arbontête, on s'est équipé, c'est-à-dire qu'on fait que de l'élagage. Nous, on fait taille douce ou démontage. Donc la taille douce, c'est la taille respectueuse du végétal, où on va intervenir sur le houppier, mais sans le traumatiser. Comme je dis toujours, on va faire ce que nous demande l'arbre, mais pas forcément ce que nous demande le client. Et alors, certaines personnes sont prêtes à l'entendre, d'autres sont un peu plus réticentes, mais c'est notre job aussi de leur expliquer pourquoi on fait comme ça. Et je suis toujours en train de leur expliquer qu'en fait, ils ne verront pas ce qu'on a fait en éclaircie dans le végétal. Ils ne pourront pas le voir. Il faudra vraiment qu'ils viennent en dessous du végétal et là, qu'ils constatent qu'effectivement, ils découvrent leur végétal. C'est-à-dire, ils découvrent le tronc, les charpentières, les branches, les feuilles et ce voile de feuillage en extrémité et que le végétal est en sécurité. Car ce n'est pas la hauteur de l'arbre qui est dangereux, c'est son volume de branches. L'arbre a deux ennemis. Le premier, c'est l'homme. Alors, c'est facile, on évite à n'importe qui de faire n'importe quoi dans l'arbre. Le deuxième, c'est le vent. Et pour faciliter le passage du vent, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'éclaircie. Voilà.
Architecture et cadre de vie aujourd'hui sur RCF. Claire-Hélène Delouvet, directrice du CIE de la Nièvre, s'entretient avec Geoffroy Hichet, spécialiste des arbres, fondateur des entreprises Arbres en Tête et Arbor Expert.
RCF.
Il y a une chose, je me permets de revenir sur ce que tu disais précédemment là. Tu dis en région parisienne, les constructeurs immobiliers, ils font intervenir à des experts comme toi pour pouvoir livrer, garder finalement le potentiel arboré des parcelles. Et ce n'est pas le cas ici.
Alors ici, je n'ai pas de clientèle en expertise d'arbres. J'ai quelques clients comme certaines collectivités où avant je travaillais en tant qu'arboriste et qui maintenant savent que j'ai fait une entreprise, que j'ai créé une entreprise d'expertise, donc qui me contactent. Mais en règle générale, quand je fais une expertise, je préconise pas mon entreprise en taille. C'est-à-dire que je donne les coordonnées de personnes étrangères au réseau. Je ne peux pas être juge et partie. C'est pas possible. Excepté dans certains cas où j'ai déjà un client qui me fait travailler depuis des années comme une collectivité et qui demande après une expertise de l'arbre. Je fais l'expertise de l'arbre. Je vais pas envoyer la concurrence proche de Nevers sur des chantiers de taille que j'ai déjà pratiqués. Mais par contre, tout client prospect, tout nouveau client chez Arbor Expert, en fait, est conseillé et je diffuse les réseaux parmi lesquels je fais partie pour être sûr que la qualité du travail qui soit derrière, qui soit mené et que surtout le rapport d'expertise mais mon pronostic soit respecté sur le végétal.
D'accord. Non mais c'est intéressant de se dire que on est un petit peu en retard peut-être dans notre département par rapport à la prise en compte du potentiel arboré.
Je peux pas te le confirmer parce qu'en fait j'ai pas de client constructeur immobilier. Je sais que les collectivités maintenant ont de plus en plus conscience de leur richesse qu'ils ont au-dessus de leur tête, leur patrimoine arboré, c'est le poumon vert des villes aujourd'hui. Ils en sont de plus en plus conscients. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de tailles traumatiques d'effectuer sur les arbres. On se rend compte que les tailles en tétard, tête de saule, qui étaient des habitudes visuelles qu'on avait depuis des années, et même dans les années 80-90, on en voit encore quelques-unes. Mais on se rend compte que ces alignements d'arbres, forcément avec la répétition des tailles, ont été traumatisés. Et puis quand il y a des gros coups de vent, en général, c'est les premiers sujets à se fracturer. Aujourd'hui, tout le monde me dit « mais il y a une tempête, tu vas te déborder ». Non, on n'est pas forcément débordé parce que beaucoup de vieux sujets ont déjà été éradiqués. On a deux tempêtes par an à peu près. Donc tous les vieux arbres sont déjà éradiqués. Les arbres qui restent sur pied sont bien souvent des arbres sains ou des arbres qui sont bien entretenus ou alors des vieux arbres qui sont abrités par d'autres arbres.
Par d'autres arbres.
Et bien souvent, ils tombent la tempête d'après ou deux ans après parce que les arbres aux alentours qui les protégeaient sont tombés à leur tour. Donc, on n'a pas tant de boulot que ça. Et puis, ce n'est pas du boulot qu'on recherche après les tempêtes, parce que quand on arrive au pied d'un arbre qui était magnifique, qui se retrouve fracturé en deux parce que, parce qu'il y a une erreur de taille dessus, un collègue est venu, il n'a pas coupé la bonne branche ou a mal travaillé dessus et que l'arbre, il est massacré. C'est pas intéressant pour nous. Ça, on, je vais pas dire qu'on pleure devant l'arbre, mais on est triste parce que c'est notre priorité. Nous, c'est le végétal. C'est notre métier, c'est tailler l'arbre, mais c'est aider le particulier ou la collectivité à transmettre son patrimoine arboré sain. Et c'est ça en fait. J'étais encore arrivé dans une propriété tout à l'heure, une grosse propriété où je travaillais pour déjà l'ancienne propriétaire. Et la dame me dit, mais voilà, je ne connais pas les arbres, expliquez-moi comment vit un arbre, expliquez-moi ce qu'il faut faire. Donc je l'ai rassuré dans un premier temps. Je lui dis, voilà, faut arrêter de regarder tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit dans les rues, tous les arbres qui sont... Non, on ne taille que s'il y a besoin de tailler. Et je lui ai pris l'exemple d'un chêne au milieu d'un champ à côté, et j'ai regardé le chêne à côté. Il est magnifique. Elle m'a dit, oui, c'est vrai qu'il est splendide, personne n'est monté dedans. Ben oui. C'est pour ça qu'il est joli.
C'est pour ça qu'il est intact.
Exactement. Il a sa forme naturelle. Une branche meurt, elle tombe. Bon, elle tombe par terre, dans le champ, ou sur une vache, si vraiment il n'y a pas de chance. Mais nous, notre job, en fait, c'est d'anticiper la chute de bois mort. On devrait être là juste pour entretenir le bois mort dans le végétal. Un arbre n'a pas lieu d'être maîtrisé au niveau de la taille. C'est-à-dire qu'il serait bien implanté, ou le bâtiment ou la voirie à proximité serait bien implanté, on n'aurait pas lieu de tailler un arbre.
Donc ça implique que le créateur d'espace prenne vraiment en compte les dimensionnements, les échelles.
Exactement.
Et là, je parle en tant que paysagiste concepteur, mais c'est vrai que c'est mon travail aussi de toujours bien calibrer les choses.
Exactement, d'implanter un arbre
au bon endroit.
Avec sa taille adulte. En se disant, voilà, cet arbre-là, dans 40 ans, 50 ans.
Il a tel gabarit.
Exactement. On ne peut pas planter un Ginkgo biloba en dessous d'un cèdre parce que les deux vont vieillir aussi bien l'un que l'autre. Alors peut-être un peu plus le cèdre quand même, mais voilà, il y a des erreurs à ne pas faire. Et bien souvent, alors l'erreur ne vient pas forcément des paysagistes, mais des particuliers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, dans un jardin, c'est normal, on veut se protéger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On plante des arbres. Et puis on a un petit terrain, donc on peut pas planter une forêt au milieu de son terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On plante sur les contours. On respecte les 2 mètres de limite de propriété, ça c'est pas un problème, on le sait, c'est cette problématique-là. Mais le problème c'est qu'on plante des arbres.
Ils vont devenir trop grands.
Et des arbres sont les plantes très, très dans d'une aire très dense. C'est comme en forêt, on appelle ça la dominance apicale. C'est le concours de celui qui va monter le plus vite et qui va pouvoir faire son houppier au-dessus des autres et qui va avoir la dominance sur les autres, donc, d'où le nom dominance apicale. Et ça se passe chez le particulier. Et le problème, c'est que le voisin, il a un arbre à 2 mètres de sa limite de propriété qui fait déjà 10 mètres de haut. Avec toutes les tempêtes qu'on a, il a peur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son crayon, il envoie un petit mot au voisin. Voilà, écoutez, vous seriez gentil de bien vouloir couper vos arbres à hauteur réglementaire. Et puis, il y a deux solutions. Soit là, la personne se dit, oula, il y a un problème, je vais faire appel à un professionnel. Ou là, on va venir, on va lui conseiller. On va lui dire, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Des fois, il vaut mieux peut-être enlever un arbre sur deux, ou même deux arbres sur trois, en conserver qu'un seul, mais sans le traumatiser au niveau de la taille, plutôt que d'arriver avec une tronçonneuse. Et j'appelle ça les élagueurs dépressifs, où on arrive et là, on se rend compte qu'on transforme un rideau d'arbres en haie de tuya. Et ça marche parce que ça repousse, mais biologiquement, éthiquement, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, on en voit quand même de moins en moins, je te rassure. Ça fait 20 ans quand même que je me bats au niveau de la taille douce sur la Nièvre.
On voit parfois, moi, ce que je vois, c'est suite à des tempêtes, justement, des petits malins qui se baladent dans les lotissements, en disant, oh là là, vous avez un grand arbre, vous avez vu la tempête, là, faudrait peut-être le couper. Donc, je le vois quand même.
Ça. Oui, on les voit se promener.
J'en vois quand même.
Ouais, moi, je ne les vois pas trop dans les arbres. Ouais. Franchement, l'année dernière, j'ai dû en voir 2 ou 3. Après, la problématique au niveau des tempêtes, c'est l'accident. Tu sais que j'ai été formateur avec Anthony, on a donné beaucoup de formations. Anthony, c'est mon conducteur de travaux, on a donné des formations pour la MSA où on a expliqué comment il fallait contrôler les entreprises d'élagage parce que c'est quand même un métier nouveau. Alors il y a de ça 5-6 ans. Mais on s'est rendu compte qu'en fait l'accident arrivait plus souvent de la part du particulier. C'est-à-dire le particulier, après la tempête, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans un magasin, il achetait une tronçonneuse, on lui vendait pas l'équipement de protection, donc on lui vendait pas le casque, on lui vendait pas le pantalon de sécurité, on lui vendait pas les chaussures de sécurité, on lui vendait pas harnais, rien. Il monte avec son échelle, il commence à couper, il se retrouve coincé entre les deux, entre la tête et l'arbre, ou alors l'échelle se fait balayer par une branche, enfin tu connais.
Ou alors il tirait avec des cordes, enfin on voit des gens qui sont.
Et donc ouais, les accidents arrivent bien souvent là, et il faut savoir qu'en élagage, l'accident mortel arrive sur les 5 premiers mètres.
Oui, on n'a pas besoin de monter très haut.
Il n'y a pas besoin.
Ouais, c'est ça.
Donc on a quand même un outil qui coupe à l'intérieur dans nos mains, donc il faut faire attention. Moi quand je forme des jeunes, je leur donne toujours des scies au début. Parce qu'avant de s'attaquer à une branche qui fait 30 cm de diamètre, avec une petite scie dont la lame fait 15 cm, on se pose quelques questions. Alors que si on donne tout de suite une tronçonneuse, on coupe, et une fois que c'est coupé, malheureusement, tu le sais, le végétal, c'est coupé. Voilà.
Et il y a quand même, en dehors des tempêtes qui peuvent toucher les arbres, il y a quand même aussi l'histoire des canicules qui peuvent aussi endommager la vie des arbres. Tu m'avais parlé, on avait discuté ensemble de certains arbres qui étaient atteints de problèmes suite à des canicules parce qu'ils ne pouvaient plus.
Ils pouvaient on plus appelle être... ça des ruptures estivales.
Voilà, ça.
Alors, il y a la canicule, effectivement, mais aussi il y a aussi les maladies. On a malheureusement aujourd'hui de plus en plus de champignons. Il faut savoir que dans un végétal, on a deux types de cellules. On a cellule de cellulose, qui est chargée d'eau et de lumière. On a cellule de lignine, qui sert en fait à la rigidité mécanique. Et on a des champignons qui sont spécialisés. C'est-à-dire qu'on a des champignons lignivores et on a des champignons cellulosiques. Ils sont comme nous, ils sont malins. Ils se sont dit, on va prendre ce dont on a besoin, le reste, on ne va pas trop y toucher. Donc les champignons lignivores, eux, ils vont avoir pour but de dégrader les cellules de lignine et ne pas toucher aux cellules de cellulose. Et à l'inverse, les champignons cellulosiques, eux, vont détruire les cellules de cellulose et ne pas toucher à la lignine. Un exemple, quand on abat par exemple un vieux saule et qu'à l'intérieur, le bois est tout friable, il est blanc, on appelle ça une pourriture blanche. Donc ça, c'est la cellule de cellulose, c'est-à-dire que le végétal a été attaqué par un champignon lignivore qui a digéré toutes les cellules de lignine et qui n'a pas touché aux cellules de cellulose. À l'inverse, je prends l'exemple d'un vieux prunus qu'on abat, et à l'intérieur, le bois est très rouge, cassant, comme des blocs de charbon. C'est le nom, c'est la pourriture rouge cubique. C'est-à-dire que ça, c'est les cellules de lignine, qui n'ont pas du tout été digérées par le champignon, car c'est un champignon cellulosique qui l'a attaqué. Donc ça, c'est quand même très grave. Là encore, aujourd'hui, j'ai vu plein d'arbres avec des champignons. La problématique pour nous, arboristes, quand on a, et nous, experts, quand on a un champignon de type, par exemple, ganoderme, un ganoderme, c'est une grosse galette marron qui se développe sur le collet du végétal, donc sur les premiers centimètres qui sortent de terre. La partie épigée, donc la partie haute, on a deux parties sur le végétal. On a la partie épigée que tout le monde connaît, constituée du tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits, et on a la partie hypogée dans le sol conçue du système racinaire. Donc deux types de racines, les racines de nutrition qui descendent aussi profondément que la les racines d'ancrage qui descendent aussi profondément que la remonte, et les racines de nutrition qui sont à la surface de la terre. Et donc on a ce champignon qui va complètement digérer le système racinaire avec son mycélium et qui ne va pas du tout toucher à la partie épigée. Donc en fait la partie épigée est saine, l'arbre est magnifique, il a toutes ses feuilles, très peu de bois mort. On prend l'exemple, par exemple, d'un chêne, carcus, qui va faire en diamètre à la base environ peut-être 1 mètre, et puis entre 17 et 20 mètres de haut. Une partie épigée, donc aérienne, très belle. Une partie hypogée, complètement digérée par le champignon. Donc, on imagine un poireau, en fait, avec très peu de chevelure racinaire. Et ces arbres-là, en fait, bien souvent, dès qu'il y a un coup de vent, tombent. Et ils se fracturent au niveau du collet. Et ça, c'est très compliqué à expliquer au client, que son arbre, malheureusement, il faut l'abattre, parce qu'il me dit... Bah, regardez, en haut, il est parfait, quoi. Il n'y a pas de problématique. Et c'est en bas que tout a été digéré. Donc ça, c'est la problématique des champignons.
Architecture et cadre de vie aujourd'hui sur RCF. Claire-Hélène Delouvet, directrice du CIE de la Nièvre, s'entretient avec Geoffroy Hichet, spécialiste des arbres, fondateur des entreprises Arbres en Tête et Arbor Expert.
RCF.
Et effectivement, comme tu en parlais, la problématique des ruptures, enfin, des dessèchements, des ruptures estivales, c'est que le végétal a plusieurs stades de déshydratation. Donc un des premiers stades, c'est la feuille qui va perdre un peu de sa cellulose, donc qui va devenir un peu plus cassante. Après, on peut avoir une perte foliaire éventuelle sur une partie du végétal. Après, on peut avoir la perte totale du feuillage. L'arbre se dit, je préfère éviter de perdre trop d'eau par l'évapotranspiration. Sous la feuille, il a des spores qui sont là pour réguler justement son taux d'humidité à l'intérieur. Donc, il va les fermer pour éviter de perdre trop de flotte. Et puis après, on a également une autre problématique sur les arbres assez gros, comme le chêne, comme le cèdrus aussi. Où là, quand on va avoir des branches assez pléagiotropes, donc qui sont à l'horizontale, on va avoir des problématiques de cellules de cellulose qui vont se rétracter. Et le végétal va pomper cette humidité qui est dans les cellules de cellulose. Et en fin de journée, vers les coups de 5h, 7h du soir, alors qu'il n'y a pas de vent, on a une baisse de la température l'été, on a une chute thermique, et là, il y a rupture estivale. C'est-à-dire que la branche va casser, net, d'un coup. Elle va casser sur son premier tiers. Et tout le reste de la branche va tomber et risque de faire dégringoler d'autres branches autour. Alors, c'est marrant que tu m'en parles parce que la cliente que j'étais voir tout à l'heure dans la grosse propriété avait également un cèdre comme celui-ci qu'on avait entretenu il y a de ça peut-être une quinzaine d'années déjà, ça passe vite. On avait fait complètement bois mort, on était les premiers à monter dedans, donc c'était magnifique. C'était un cèdre qui faisait peut-être 1,50 m de diamètre au pied, à hauteur 30 mètres. superbe, Cedrus Atlantica, Cedrus Libanis, pardon, autant pour moi, Cedrus Libanis. Et on a fait un toilettage complet de l'arbre. Et puis, 2-3 ans après, une branche casse. Un peu vexée, la cliente décide de ne pas m'appeler. Elle appelle un autre collègue. Le collègue lui dit, bah, écoutez, c'est parce que voilà, il a mal été taillé, il faut en enlever davantage, il faut le réduire, tout ça. Bon. Elle lui fait confiance, il réduit complètement une ou deux charpentières. Et puis, 2 ans après, ça recommence. Nouvelle rupture estivale. Là, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, monsieur Hichet, il faut que vous veniez voir mon arbre, j'ai une problématique. Ah, je lui dis, vous avez une rupture estivale? Elle me dit, je ne sais pas, j'ai une problématique. Je viens sur place, et là, je constate les grosses plaies qui ont été faites au ras du tronc. Mmh. Donc, des branches de 60-70 cm de diamètre, rabattues au ras du tronc. Mmh. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, les lagueurs que j'ai appelés m'ont dit que le travail était mal fait, et qu'il fallait en enlever davantage, réduire certaines grosses branches. Je lui dis, mais non, c'est juste une rupture estivale. Donc, je lui dis, il faut juste arroser. Elle en était malade, elle a pleuré devant son arbre, parce que malheureusement, les plaies qui ont été faites ne cicatriseront jamais. Ouais. Et je lui ai conseillé donc d'arroser son arbre. Donc, elle a fait venir une tonne à eau de son voisin qui est agriculteur, pour essayer d'arroser un peu le végétal, de le réhydrater au niveau racinaire, de manière à ce que la sève puisse remonter l'humidité dans le végétal et que le végétal puisse lutter contre cette déshydratation. Donc, il faut faire attention au on-dit. Il faut faire attention à tout ce que l'on peut voir autour de nous. Un arbre se taille quand il est en feuille. Il ne se taille pas en période hivernale. Il se taille quand il est en feuille parce que la cicatrisation est immédiate. Un arbre ne se plante pas grand, il se plante petit. Un arbre ne se plante pas dans un trou rond, il se plante dans un trou carré. Un arbre ne se plante pas avec du terreau, il se plante avec de la terre végétale. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir quand on est particulier. Ou alors, on entend de tout autour de nous. On ne sait plus à un moment ce qu'il faut faire. Je me souviens, je compare souvent quand j'ai eu ma première fille. Tout le monde me conseillait. Et puis à un moment, avec ma femme, on s'est dit...
On se débrouille. Hein.
On va faire notre sauce parce que tout le monde se contredit et c'est exactement pareil au niveau des armes. À chaque fois quand je ressors d'un rendez-vous, les clients me disent
j'ai tout entendu.
J'ai entendu l'inverse. À chaque fois, on m'explique l'inverse.
Mais il y a quand même une chose qui est importante à dire quand même. Je pense, tu seras d'accord, c'est que effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une partie visible qu'on croit connaître. Oui. Mais en fait, un arbre, c'est très important, sa partie souterraine.
Exactement.
Et que souvent, ça, on n'en tient pas du tout compte.
Il y a une symétrie.
On fait des travaux, par exemple, on va faire des tranchées, on va faire des ouvrages, on va faire des tas de choses. On coupe sans problème les racines, sans se dire qu'il va y avoir des impacts sur la partie, sur l'ensemble de l'arbre. Quoi.
Il faut savoir que au niveau biologique, vous avez donc deux parties, la partie épigée et la partie hypogée. Donc, et il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que le volume aérien, si on enlève la hauteur de tronc, la demi-sphère qu'on a en haut, si on la retourne, on a exactement la même au niveau du système racinaire. C'est-à-dire qu'en haut, on a un tronc, des charpentières, des branches, des feuilles, des fleurs. En bas, on a une racine, une souche, des départs de racines principales, des racines secondaires, et après des petits radicelles. Les petits radicelles ont pour rôle de choper l'eau et les sels minéraux, et les feuilles en haut, elles, ont pour rôle de choper la lumière, de capturer la lumière. Quand on coupe, alors bien souvent le problème en ville, c'est les tranchées. Quand on fait une tranchée et qu'on coupe, qu'on sectionne un système racinaire sur un jeune sujet, il faut savoir qu'en fait la sève qui vient des racines d'un jeune sujet est complètement dispatchée dans l'ensemble de l'arbre. C'est-à-dire que vous avez la racine ne va pas forcément alimenter la branche qui a son aplomb. La racine vient, la sève part de la racine et est dispatchée dans l'ensemble du haut pied du végétal. Sur les vieux sujets, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand vous sectionnez une racine, vous avez forcément, dans les 2 ans qui arrivent après derrière, une mortalité au niveau de la partie épigée sur les premières charpentières, les premières grosses branches. Ça, c'est classique. Et le souci sur les voiries, maintenant qu'on essaye d'enterrer tous les réseaux, on est contre les réseaux aériens. Alors, c'est vrai que c'était un stress au niveau de la partie épigée de l'arbre, mais par contre, maintenant, le fait d'enfouir tous les réseaux, ça devient un stress pour la partie épogée. Et forcément, si on coupe une racine en haut, on a de la mortalité, ça va être également une problématique dans 2 à 3 ans après sur la partie épigée du végétal. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que forcément à planter des arbres sur des trottoirs ou à proximité de voiries...
C'est pas évident.
C'est pas simple et c'est pas forcément utile non plus. Parce que la problématique, c'est qu'à côté, on a des maisons. Moi, à chaque fois, ce que j'entends, c'est « il faut pas que l'arbre dépasse mes gouttières, sinon je vais avoir des feuilles dans mes gouttières ». C'est faux. Plus l'arbre monte, les feuilles tombent quand il y a du vent. Donc plus l'arbre monte... plus les feuilles partiront loin avec le vent.
Ils sont balayés,
ouais. Voilà. Donc, et le souci, quand on plante un arbre sur un trottoir, c'est qu'on est obligé de faire une taille de cohabitation avec le bâtiment, mais on est obligé de faire une taille de cohabitation au niveau de la voirie. Donc, l'arbre est complètement mutilé ou stressé des deux côtés. Il a seulement sa partie pigée en haut, où il peut avoir un peu de liberté. Et puis, bah, forcément, vu que les riverains commencent à se plaindre, et bah, on est obligé de le ratiboiser également en haut. Donc, un arbre sur un trottoir...
C'est pas si simple.
Ouais, je suis pas forcément sûr que ce soit valable. Un autre problème aussi que je rencontre bien souvent chez les particuliers, l'arbre dans le jardin privé, souvent les gens me disent, mais je comprends pas, il y a rien qui pousse au pied de mon arbre. Alors je leur dis toujours, prenez-vous dans la forêt. Dites-moi si un jour vous voyez du gazon au pied d'un arbre dans la forêt. Dites-moi si vous voyez un rosier-tige au pied d'un arbre dans la forêt. Non. Ce que je disais tout à l'heure, la dominance apicale. Le premier qui monte fait le haut-pied. Et forcément, étouffe tout le reste en dessous. Donc, on ne peut pas planter au pied d'un arbre. Et on ne peut pas avoir un gazon au pied d'un arbre. Et il ne faut pas essayer d'avoir un gazon parce que forcément, le gazon va dépérir tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, on va passer la motobineuse pour aérer le. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un impact sur le système racinaire.
C'est ça.
Il vaut mieux des fois planter des plantes d'ombre tapissantes, comme le pakisandra ou des trucs comme ça, qui vont vraiment tapisser le sol. Parce que c'est vrai qu'au milieu d'un jardin, quand on a un grand arbre, avoir une surface en terre au pied de l'arbre, c'est pas terrible.
Ouais, mais alors, tu vois, les Anglais, par exemple, qui ont un grand respect des arbres, moi, je me baladais, par exemple, à Kew Garden, le jardin royal, là. Bon, ben, eux, carrément, tout autour, au pied de l'arbre, il y a carrément du... Ils mettent des paillages, hein, tu vois.
Oui.
Donc, en fait, c'est très beau.
Enfin, on peut mettre du paillage.
C'est-à-dire... Il laisse les feuilles tomber, bien sûr, et il les laisse au sol, ce que nous, on ne fait pas forcément, hein, puisqu'on a tendance à ramasser les feuilles et ce n'est pas très bon pour l'arbre. Mais en plus, ils mettent ça en scène, en nourrissant finalement
c'est
le sol.
C'est une solution aussi. C'est une solution aussi. Alors, en ville, ce n'est pas évident parce que tu as toujours les chats, les oiseaux qui viennent gratter. Donc, le paillage, c'est intéressant, sauf s'il y a vraiment une délimitation mécanique en physique entre la plate-bande où il y a du BRF et puis le trottoir à côté. Parce que si tu commences à avoir du copeau qui tombe sur le trottoir ou sur la voirie, c'est pas génial. Okay, ouais. Et dans un parc, ça peut être valable. Et puis il faut savoir que maintenant, les vieux sujets, moi je suis en expertise, quand les gens veulent vraiment conserver l'arbre, je préconise un périmètre de sécurité autour du végétal. Donc qui dit périmètre de sécurité, c'est on n'a pas le droit de franchir cette barrière. Donc ça permet de préserver le végétal par rapport à l'impact humain. Parce que bien souvent, c'est le piétinement des racines traçantes qui sont là, c'est l'enfouissement de mégots, c'est la pollution, c'est un stress pour le végétal, mais il n'a pas besoin de ça. Les arbres étaient sur Terre avant nous. Le but, c'est que...
Qui reste après nous.
Exactement.
D'accord. Bah écoute, vraiment, là, tu nous as fait un bon panorama. On aurait pu encore disserter encore longtemps, donc je reviendrai te voir.
Sans problème.
Pour aller voir peut-être des chantiers, par exemple.
Oui, on pourra même aller sur le terrain, voir un arbre, t'expliquer ce que l'on taille, ce que l'on ne taille pas sur un végétal. L'arbre est comme un être humain, j'aime bien le comparer à l'homme. C'est-à-dire que nous, on respire, lui aussi. Nous, on transpire, lui aussi. Nous, on boit, lui aussi. Nous, on mange, lui aussi. Nous on pousse, lui aussi. Nous on cicatrise, lui aussi. Nous on se plaint.
Pas lui. Voilà. Il est très poli.
Exactement.
Et puis c'est vrai qu'il y a des croyances. Tu parlais des croyances tout à l'heure, des rumeurs, etc. Mais la cicatrisation, par exemple, il y a des gens qui se disent bon ben je peux couper n'importe quoi. Après je mets un peu de cicatrisant par dessus et tout va bien. Et en fait les recherches montrent que tout ça c'est faux. Que en fait il vaut mieux bien tailler, c'est-à-dire très peu tailler. Et surtout pas de grosses branches.
C'est ça.
Et que ça sert à rien d'aller mettre un cicatrisant, voire même ça peut être néfaste.
C'est pire.
Parce que ça crée une surface sous laquelle.
Puis on enferme le parasite.
On enferme le parasite
à l'abri de ses prédateurs.
Voilà, c'est ça.
C'est le Club Med pour le parasite. Il est à l'abri, tranquillement, il peut faire sa petite vie dans l'écorce. Il suffit simplement de faire un angle de coupe correct, respectueux de l'arbre. Donc ça, je t'expliquerai lors d'une prochaine interview.
Mais je retiens cette histoire de les jeunes que tu as en formation, les faire tailler à la scie manuelle. Et je trouve que ça, c'est vraiment fondamental pour apprendre, tester déjà.
La phrase vraiment à retenir, c'est que on taille avec plaisir et pas par plaisir. Voilà.
D'accord, très bien. On retient ce petit dicton là, qui est formidable. Écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis.
Je t'en prie, aucun problème.
Je retiens l'idée de venir te voir sur un chantier ou pour regarder un arbre en détail, hein, pour aller plus loin. Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite et pour tes nouveaux challenges.
Merci.